Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, située à Perpignan, 15 place de la République. Très belle ville, Perpignan, sur 103.2. Et je vous rappelle également que nous sommes la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez en ce début d'émission le numéro 1289 d'Invino Sud Radio. Depuis la création de cette émission, c'était il y a 20 ans, au menu une jolie balade qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Mathieu Dangin qui est propriétaire du domaine Bruno Dangin en Bourgogne et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand offert par le Cercle Wine Business. À mes côtés pour nous accompagner Christelle Tarré, caviste à Neuilly, première femme caviste de France. Bonjour Christelle.
Bonjour Alain.
Et l'excellente Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure.
Bonjour Alain.
Pour bien commencer cette émission, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir une troisième femme à bord, Céline Roudier-Léger, du domaine Vendôme. Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors vous êtes située où dans la vallée du Rhône? Parce que c'est grand et beau là-bas.
Alors on est en vallée du Rhône Nord, ouais. Sur les hauteurs de la colline de l'Ermitage.
Bon, ça va, il y a pire
si
comme fréquentation. Quoi,
on c'est... est pas mal.
Alors, racontez-nous, vous étiez d'abord au pays des abricots et des cerises, et puis, pof, vous tendez vers le raisin, c'est ça?
Exactement.
Depuis 2020.
On est toujours au pays des abricots. Hein. Vraiment, le village était connu pour ça, pour les abricots les cerisiers. Et du coup, c'est une exploitation familiale depuis plusieurs générations, productrice d'abricots et de cerises. Et Romain, mon mari, quand il s'est installé, a repris l'exploitation en 2010. C'est lui qui a planté la vigne en diversification de culture,
d'accord,
au départ. Et puis après, il a voulu aller au bout du process et il s'est lancé dans la vinification. En 2020, première vendange, construction de la cave, ouais, pendant le confinement. Et puis première vendange en septembre.
Oh, c'est une belle aventure. Laure ?
Quelle appellation produisez-vous alors ?
Alors essentiellement Creusot-Ermitage, 80%. Et après, on a eu la chance de récupérer une parcelle de Cornas. Et on a également des IGP Collines Rhodaniennes en 100% Viognier et 100% Syrah.
Christelle ?
Alors vous faites des vins blancs et des vins rouges aussi ?
Tout à fait. Oh. On a l'appellation Creusot-Ermitage est principalement connue pour ses rouges, puisque sur l'appellation, ça représente 90% de la surface. Et nous, on a une proportion un peu atypique. On a 40% de la surface en blanc, puisque les terroirs qu'on a sur l'Arnage et Creusot-Ermitage sont plutôt adaptés aux cépages blancs.
Ce sont des vins qui sont magnifiques, en plus. Moi, j'aime beaucoup, qui ont beaucoup de matières aussi, pareil, d'aromatiques qu'on peut utiliser dans plein de circonstances, accordées, et en effet, qui ont besoin d'être un peu plus connus, peut-être, du grand public.
Ils méritent d'être connus, oui, tout à fait.
Il s'agit de quels cépages blancs, alors ?
Alors, on est sur les cépages Marsanne et Roussanne. C'est les deux autorisés sur l'appellation, et nous, on produit les deux.
Les deux, et donc aujourd'hui au total vous dites qu'il y a combien de bouteilles à peu près chaque année qui sont produites ?
Alors on est allé progressivement, puisqu'on a commencé en 2020, aujourd'hui on est autour d'une 40 000 bouteilles à peu près.
Bah, c'est bien ça.
Le vignoble fait 15 hectares.
Et alors l'effet réchauffement climatique chez vous, c'est toujours un grand frigo ?
Oui bien sûr,
absolument,
c'est connu pour ça. Oui, les étés sont de plus en plus chauds, donc on est obligé d'adapter la culture. On est obligé de s'adapter au climat.
Et les conséquences, sur les abricots et les cerises de ce réchauffement climatique, parce qu'ici, on parle que de raisins, ici, à bord d'une vigne au Sud Radeau depuis 20 ans. On ne s'est jamais intéressé aux abricots, aux cerises, ce qui est une grave erreur. C'est quoi l'influence ?
Là, ça va être des saisons précoces et puis les aléas climatiques qu'on connaît également sur la vigne. Donc, ça va être le gel qui peut risquer, surtout sur les fruitiers. Et puis la grêle... qui peut également abîmer les
Donc les mêmes périls, les mêmes dangers.
Exactement.
Que pour la vigne.
Un peu plus tôt.
Les fruits, vous les apportez en cave coopérative,
oui.
et les vins, non. Vous avez décidé de faire quelque chose de complètement différent.
C'est ça. En fait, quand Romain a planté en 2010, au départ...
Romain, c'est le mari. Hein,
Romain, c'est le
vigneron. On
l'embrasse. Exactement. Au départ, il faisait qu'à la partie viticulture. Donc vraiment, il faisait pousser la vigne et prenait soin de la vigne. Et les vendanges étaient apportées à la cave coopérative. Et puis après, il a voulu faire la deuxième partie du travail et se lancer dans la vinification. Mais les abricots, les fruits sont toujours apportés en coopérative.
Christelle, il y en a beaucoup de viticulteurs qui deviennent vignerons, comme Romain et son épouse.
Alors ça, je ne saurais pas te dire, parce que c'est quand même un métier.
C'est un changement de métier.
Faut passer le pas. C'est deux métiers complètement différents.
Complètement.
Puis vous êtes un jeune domaine, donc il y a
un
aussi
jeune
toute
couple.
Et puis la commercialisation, parce que justement, comment on fait quand on est un jeune domaine pour commercialiser, vendre ses bouteilles développer.
On fait des salons, on fait plein de salons pour se faire connaître. On fait des événements vraiment se faire connaître, faire découvrir notre travail. Et puis, c'est pour ça qu'au départ, on a commencé avec 12 000 bouteilles sur 4 cuvées. Et puis, on a vu que les vins plaisaient. Donc, on a mis un peu plus en bouteilles. Et,
Et voilà. Aujourd'hui, c'est toute la production qui est en bouteille, non ?
Non, on est peut-être moitié-moitié.
Moitié-moitié. Ouais. Laure ?
Mais quel est votre prochain événement, par exemple, où on peut venir
Alors, au domaine, on commence les événements là fin mai, le 24 mai exactement, avec un événement convivial, un banquet autour d'un cochon à la broche.
Donc vraiment, un cochon à la broche ?
Exactement.
C'est génial, ça.
L'idée, c'est de faire
découvrir... Un seul cochon ou il y aura plusieurs cochons ?
Normalement, il n'y en aura qu'un.
Ah, il n'y en aura qu'un, d'accord.
Vous attendez combien de personnes ?
2000.
Non.
C'est quand un tout petit bout de cochon. Hein,
c'est ça. Oui. Non, on a limité à 60 personnes, parce que voilà, c'est une exploitation familiale. Donc, on fait vraiment... c'est en famille, quoi. Donc,
papy et on peut s'inscrire ou c'est complet déjà ?
On peut s'inscrire pour les événements du mois de mai. Ouais. Oui, c'est tout est
et après
en
le cochon, il y aura quoi ?
Après le cochon, on fait un brasero dans les vignes. Donc là, pour le coup... Ouais. Au milieu d'une parcelle, vue sur le Rhône, soir d'été, c'est plutôt agréable.
C'est plutôt sympa. En plus, c'est très beau ce jour-là, n'est-ce pas ?
Et l'année dernière, on a eu beaucoup de chance. Il faisait super beau, pas de vent, donc ce qui est assez rare chez nous.
Mais c'est une très bonne manière, en tout cas, de faire connaître vos vins, de déployer une clientèle particulière qui est la plus précieuse pour un jeune domaine.
Et puis de se faire connaître des locaux, puisqu'on n'est pas les seuls vignerons en Creusot-Hermitage. Donc justement, c'est d'amener les gens à être curieux et à venir passer un bon moment, on l'espère.
La gamme de prix, donc ça va de combien vos vins, vous nous rappelez ?
Entre 15 euros et pour les IGP et 43 pour le Cornas.
Entre 15 et 43. Christelle ?
Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous faites partie du réseau France Consigne. Et on commence à en parler de plus en plus. Je trouve ça très intéressant.
Alors, c'est quoi cette bête-là ?
Oui, voilà. Ouais, nous raconter.
Alors, ça, c'est un engagement qui nous tenait à cœur. En fait, c'est de travailler sur le réemploi de nos bouteilles. Donc, le millésime 2023 sera embouteillé dans des bouteilles réemployables. En fait, c'est le retour de la consigne. Donc, en fait, on adapte le contenant qui est certifié, qui fait partie d'un standard fourni par France Consigne. Et après, on doit juste adapter les étiquettes, enfin la colle des étiquettes pour qu'elles soient lessivables.
Et vous les récupérez comment, vos bouteilles ? Des particuliers, des professionnels ?
En fait, c'est vraiment tout un réseau qui est en construction. Hein. Le France Consigne, ça a été lancé l'année dernière, à millésime bio. Donc, en fait, il y a des enseignes qui sont identifiées comme point de collecte. Donc, vous pouvez ramener une bouteille achetée chez nous, vous la ramenez. En fait, l'idée, c'est que la bouteille, qu'elle soit achetée à Nantes, à Valence ou à Paris, qu'elle puisse être collectée là où elle a été bue et réutilisée dans le bassin où elle a été collectée.
Localement, quoi.
Il y a de plus en plus de cavistes qui l'utilisent, en fait. C'est-à-dire que le client rapporte. On a carrément un petit conteneur qui est récupéré. Et en fait,
vous notez l'origine de chaque domaine ou vous mélangez toutes les bouteilles
On mélange toutes les bouteilles. Mais c'est intéressant parce que pour nous, c'est vrai que ça fait revenir le client. Il y a le système de la consigne. Et en fait, on revient à cet ancien système qui fonctionnait très bien avec l'eau avant. Et on le fait sur les vins. Donc, ça répond aux problématiques de verre, à plein de choses pour le vigneron.
Et le client, il touche un euro ?
Ça dépend. C'est-à-dire, non, la consigne, elle est beaucoup plus basse. Donc, soit, en fait, c'est le geste écologique, c'est-à-dire que le client vient rapporter sa bouteille, en fait. Mais on peut mettre en place un système de consigne, si on veut, à l'ancienne.
Ou le fait une petite réduction sur les prochaines bouteilles,
On peut l'imaginer. Ouais. Pour l'instant, on n'y a pas pensé dans ces détails-là, mais effectivement, je rejoins plus.
Et cette consommation responsable, vous sentez que c'est vraiment une prise de conscience de pas mal de consommateurs et distributeurs, Céline ?
En tout cas, ça viendra inévitablement sur les jeunes générations qui sont vraiment sensibles à ces notions-là. Alors, à la fois sur une production dans le respect de l'environnement, donc la certification bio, par exemple, et puis d'aller au bout de faire au maximum pour réduire notre impact environnemental.
Laure ?
Il faut dire que l'année dernière, justement, le verre a pris 40% d'augmentation. Oui, je pense que c'était vraiment... Il n'y avait pas d'autre solution à un moment que d'imaginer une consigne.
C'est ça. Je pense que ça a aussi encouragé à faire le pas, en fait, le petit pas supplémentaire qui nous permet d'avoir des bouteilles standard.
L'augmentation, et la rupture, parce que beaucoup ont été en rupture. Ouais. C'est-à-dire que les vignons
et le potentiel de garde de vos vins, on peut les attendre, même si vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de recul, on peut les attendre 5 ans, 10 ans, 3 siècles.
Oui, alors on imagine, effectivement, puisqu'on a commencé il y a 4 ans. Mais effectivement, sur les Creusot-Hermitage, on peut être sur des durées de garde de 5 à 8 ans.
De 5 à 8 ans, quoi. Et la température de service pour les blancs et pour les rouges, quelle est-elle ?
Alors, pour les rouges, pas trop chaud, parce que ça peut dénaturer le vin. Donc, autour de 15-16 degrés, c'est bien.
Et les blancs,
bah, pas trop froid, au contraire.
pas trop, quoi.
C'est ça, pas casser les arômes. Donc, autour de 11 degrés, c'est pas mal.
Merci beaucoup, Céline Roudier-Léger. Merci également à Laure Gasparotto et Christelle Taré. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Perpignan, au 15 Place de la République, sur 103.2. Et on vous remercie d'être vraiment très très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux, le compte Insta Invino Sud Radio. On retrouve tout de suite Christelle Taré et le Vino Quiz, Christelle.
Alors, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand offert par le Cercle Wine Business. La question de la semaine dernière était: dans quel domaine est spécialisé le groupe Frio, leader européen sur le marché de la cave à vin ? Réponse A, le froid. Réponse B, le tiède. Réponse C, le chaud. La bonne réponse était A, le froid. Pour la question de ce week-end, par quel type d'activité a débuté le domaine Vendôme dans la vallée du Rhône ? Réponse A, l'arboriculture. Réponse B, l'héliciculture. Excusez-moi. Réponse C, l'apiculture. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Christelle Taré, qui n'est pas l'abeille de Invino Sud Radio, mais au contraire, beaucoup d'autres choses. On accueille maintenant à bord de Invino Sud Radio Mathieu Dangin. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, vous êtes installé en Bourgogne, mais c'est en Champagne que tout a débuté.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous.
Je suis originaire d'une famille de producteurs de champagne de Selles-sur-Ourse. Ouais. Mon grand-père a commencé à faire de la bouteille. Après, mon père avec ses frères, après mes cousins et moi, on était tous associés. Et puis,
vous êtes engueulés ?
Non, pas forcément, mais on n'avait pas la même vision du vin. Moi, je voulais absolument faire du bio, mes cousins pas forcément, alors c'était plus simple.
Ah oui, donc il y avait quand même divergence, quoi.
Ouais, il y avait quand même divergence. Quand on est 10 de la même famille à travailler ensemble, c'est pas toujours, pas toujours évident.
Et donc, vous avez quitté la Champagne, vous êtes exporté en Bourgogne ?
Ouais, je suis pas parti loin, je suis parti à 3 km de
Très
la Champagne.
Très bien.
Donc, on est sur Molème, Molème, c'est vraiment juste à côté d'Hérissé. Donc, l'Hérissé en Champagne et Molème en Bourgogne.
C'est quand même dingue, quand même, Laure.
Ah ouais, c'est le nord de la Bourgogne avec des beaux terroirs, justement, pour les blancs. Je ne sais pas ce que vous avez planté comme cépage, mais
généralement... Alors nous, la particularité, c'est qu'on n'a rien planté. Effectivement, il y a surtout des blancs, mais plutôt du côté auxerrois. Et nous, on est vraiment le Châtillonnais qui est très peu connu et qui est plutôt planté en pinot noir. Alors pourquoi ? Parce que c'était un terroir qui avait le droit à l'appellation Champagne. Jusqu'en 1919,
Et là, vous êtes en Bourgogne, là.
Champagne. Oui, tout à fait.
Ah oui.
Mais cette frontière, elle a beaucoup bougé dans le temps. Entre la Champagne et la Bourgogne, il y a beaucoup de guerres.
Dans cette appellation ?
Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est le Châtillonnais, quand il avait le droit à l'appellation Champagne, il y avait 2500 hectares de vignes de plantées.
Ouais.
Aujourd'hui, il y en a 350.
Et qui a l'appellation Bourgogne.
Bourgogne, c'est ça. Donc Bourgogne blanc, rouge et crémant de Bourgogne.
Et crémant de Bourgogne, Christelle.
Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, avec tout ce qui se passe autour du Champagne, pour vous de faire connaître ce vignoble, puisque les prix de Champagne augmentent énormément, donc les gens se tournent beaucoup plus vers les créments, notamment les créments de Bourgogne, ou les vins pétillants, enfin, dans tout style. Donc, est-ce que c'est l'occasion de parler plus de vous, de faire connaître
Oui, tout à fait. Et puis, ça laisse de la place pour faire des beaux créments. C'est-à-dire que les créments de Bourgogne, bah, dès qu'on commençait un peu à monter en prix, on se rapprochait des premiers prix de champagne et ça coinçait toujours un peu. Maintenant, comme les champagnes ont vraiment augmenté en prix, ça nous laisse de la place. Parce qu'on peut faire des créments entrée de gamme pour vraiment celui qui veut un rapport qualité-prix. Mais on a autant de raisons de faire des belles cuvées qu'en champagne.
Et du coup, le crément représente un gros pourcentage de votre production ?
On fait quasiment que ça.
Ah,
on fait du vin tranquille que les belles années. Mais on a un terroir très minéral, très calcaire, avec un climat froid. Et du coup, faire du vin tranquille chez nous, c'est plus compliqué.
Et vous les vendez à quel prix à peu près, les créments ?
Ça va de 14 euros à 25 euros.
25 euros. Donc vous êtes bien, même par rapport au prix du champagne.
Hein, champagne, c'est bien.
Et vous les faites vieillir ? Vous avez des millésimés ?
Oui, on a des millésimés, on a des assemblages, on a aussi des grands éminents, donc quelque chose qui est nouveau en Bourgogne. Par exemple, on a une cuvée grand éminent qui est un assemblage du millésime 2017 et 2018. Mis en bouteille en 2019 et qu'on est en train de commercialiser en ce moment. Donc 5 ans de vieillissement sur latte.
Ok, qui cède. Vous pensez que l'avenir, alors on ne parle pas forcément des vins de Mathieu, mais en général, les créments qui viennent d'Alsace ou de Bourgogne, c'est une bonne alternative au champagne ou alors oui. C'est un produit à part entière et on oublie le champagne, qui est un peu le grand cousin qui parfois leur fait un peu d'ombre?
Alors, c'est un produit à part entière qui bénéficie justement de l'augmentation des prix de champagne, donc c'est très intéressant parce que nos clients les demandent de plus en plus, donc voilà, ça va faire connaître parce que c'est la méthode champenoise qui est utilisée aussi la plupart du temps pour ces créments, et donc ça permet de parler d'autres terroirs, d'autres façons de consommer de la bulle, donc voilà, on est ouvert à tout ça et surtout nos clients le sont. Voilà, ce qui était moins le cas, je trouve, avant.
Laure ?
Vous ne produisez que des... Vous avez une autre culture que la vigne dans ce
non.
territoire ?
Non. Alors, dans les vignes, on a planté des pommiers, des poiriers, mais à la base, on est vraiment vignerons. Et
100% vignerons, quoi.
Oui, vous ne faites pas de cidre ou de poirier à côté,
enfin, un jour.
Justement, vous êtes jeune, vous avez quel âge, vous, Mathieu ?
Moi, j'ai 35 ans.
Bah, 35 ans, vous avez toute la vie devant vous, là. Et est-ce c'est facile d'avoir des droits de plantation dans cette région ? Vous pouvez vous agrandir ou c'est compliqué, au contraire ?
Il y en a. Il y a plein de parcelles qui sont en appellation, qui ne sont pas encore plantées, mais ce qui reste, c'est assez gélif. Nous, on n'a jamais demandé. On n'a pris que des vieilles vignes. C'était l'objectif du domaine. C'était, si on s'installe, on crée un domaine et qu'on plante de la vigne, bah, pendant 10 ans, on va faire du vin avec des jeunes vignes. C'est un peu compliqué.
Oui.
Donc nous, on a récupéré des vieilles parcelles de grands domaines en crément qui ne voulaient plus de ces parcelles-là parce qu'elles n'étaient plus assez productives. Alors nous, ce n'est pas grave. On aime bien. Ça ne fait pas beaucoup de rendement, mais ça fait du super vin.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut comme type de degré pour réaliser des belles bulles, si je puis dire ?
L'objectif en produit fini, il faut qu'on soit autour de 12,5.
Oui, 12,5 quoi. Christelle ?
Comment vous commercialisez vos vins, justement ?
Surtout à l'export. C'est vrai que quand on a commencé à commercialiser en 2013-2014, l'image du crément n'était pas ce qu'elle était. C'était beaucoup plus difficile en France. Et à l'export, les gens sont beaucoup plus ouverts. Si c'est français, que c'est bio et que c'est bon surtout, eh ben, ils peuvent acheter n'importe quelle étiquette.
Et là, quand vous voyez le succès du Prosecco, là, vous êtes jaloux ?
Non, parce que le
Prosecco... T'es un peu jaloux quand même, non ?
Non, c'est des gros volumes.
Tout le monde en boit, c'est très tendance.
Il faut tout. Hein. Vous savez, nos plus gros clients, c'est l'Italien. C'est les Italiens. Les Italiens, c'est des gros producteurs, mais c'est aussi des gros acheteurs de bulles. Ouais. Parce qu'ils sont ouverts. Ils sont ouverts à tout.
Qu'est-ce que vous en pensez, Laure, de ce phénomène Prosecco qui n'est plus un phénomène ? Ça se vend bien, bien et ça dure.
Oui, alors le Prosecco, ce n'est pas la même méthode. C'est une méthode charmate, c'est une méthode où on a une satisfaction immédiate, rapide, alors qu'on a quand même vraiment un effet terroir avec le crémant de Bourgogne. Il y a plus de matière, on peut le boire plus à table. Enfin, le Prosecco, c'est plutôt pour l'apéritif.
Pour vous, c'est un concurrent du champagne et des créments ou pas ?
Pas un concurrent, mais un complément, en fait, c'est différent. Après, moi, je trouve que le Prosecco, très souvent, les gens le mélangent avec quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas du crément ou du champagne. Voilà, on rajoute plein de liqueurs à l'intérieur, on fait beaucoup de cocktails avec. Donc, ça prouve qu'on ne le boit pas forcément, alors que c'est dommage, parce qu'il y a des très grands Prosecco aussi qui méritent d'être connus. Comme des très grands champagnes.
Ce n'est pas un hasard, les Italiens sont les premiers producteurs de bulles au monde et qu'ils soient les premiers importateurs de bulles au monde aussi, c'est quand même incroyable. Ils adorent les bulles.
Ouais. Et les champenois, ils achètent chez Mathieu. Donc
les champenois, pour les champenois, c'est un marché énorme.
Ouais. Et alors demain, donc, votre domaine, vous voulez essayer d'agrandir, vous voulez continuer à... Vous produisez combien de bouteilles, vous nous rappelez, par an à peu près,
environ 50 000.
50 000, ce qui est pas mal. Vous êtes combien sur le domaine ?
Eh bien, ma femme et moi, et puis on prend des saisonniers.
Quel est le prénom de votre épouse ?
Alix.
Alix, on vous embrasse. Et les saisonniers, c'est facile à trouver ou pas ?
C'est difficile. Avec France Emploi, la Pôle Emploi, on n'a plus personne maintenant. On met des annonces maintenant sur Internet. Ben, je sais pas. Ils appellent pas, ils viennent pas.
Ils viennent pas.
L'année dernière, pour les vendanges, c'était que des jeunes Italiens. Ils sont venus, on a passé des super vendanges. C'était des étudiants qui avaient pris un petit peu de temps pour vendanger. Ça s'est très bien passé, mais on les a trouvés avec Facebook.
Ouais. Et alors, pour vendre vos produits, là, Christelle, vous posez la question. Vous faites participer à des salons, vous allez vous bouger un peu avec votre petite valise pour aller à l'international, pour essayer de trouver des partenaires, des importateurs peut-être ?
On a commencé comme ça, oui. C'est vrai qu'on a fait millésime bio, qui est un super salon pour nous, où on a beaucoup de contacts.
Montpellier, hein. Ouais, à Montpellier. C'est un super salon, ça.
Ah ouais, c'est très efficace pour faire des rencontres intéressantes.
Ils sont très sympas, tous.
Rencontres françaises, oui, c'est très bien, millésime bio. Ouais.
Ah, j'ai aussi pas mal d'importateurs que j'ai découvert là-bas aussi.
À Montpellier,
c'est vrai que maintenant qu'il y a Wine Paris,
ils vont plus à Wine Paris.
Le nord de la France va à Wine Paris.
Et vous avez un stand à Wine Paris aussi ou...
J'ai essayé cette année aussi, ouais.
Alors, ça a donné quoi comme résultat ?
C'était intéressant, mais moins que millésime bio.
Moins que millésime bio.
Beaucoup d'acheteurs qui voulaient des volumes et des petits prix, ce que nous, on ne peut pas produire.
Ouais, notamment des gens qui viennent de Chine, non ?
Aussi.
Par exemple. Quoi, et alors, en termes de consommation, donc, qui sont vos clients ? C'est les gens des jeunes, des moins jeunes ? Est-ce que vous avez une typologie de clientèle ou pas ? Vous allez me dire, vous prenez tout le monde. Hein, mais...
On prend tout le monde, c'est sûr. Mais on passe beaucoup par des importateurs et qui après revendent surtout en restauration et chez les cavistes.
Ouais, chez les cavistes.
Donc après, on peut pas vraiment savoir chez qui ça termine.
Et la température de service de vos créments, ça veut dire que ça sert à combien?
Bon, on sait rien.
On
faut le sortir du frigo.
L'important, c'est que les Italiens les achètent.
Voilà, non, faut commencer un peu trop froid et puis ça va s'ouvrir de toute manière.
Ouais, Christelle,
ça s'ouvre très vite.
Pour corriger un peu l'expression, là, Mathieu, là. À combien on sert son crément?
Bah, le crément, on peut le servir. Allez, on commence à 8, comme vous dites, pour qu'il atteigne les 10 au bout de 5-10 minutes quand
vous
même.
Vous avez du crément rosé aussi ou pas?
Oui, on en fait aussi.
Ouais, ça marche bien, ça, non?
Ça marche bien, oui.
Surtout c'est italien aussi, non?
Faut pas que ce soit trop sucré.
Ah, attention. Merci beaucoup, Mathieu. Il y a une adresse, un site pour venir vous voir, parce que vous êtes quand même très sympa aussi.
Oui, vous tapez Bruno Dangin sur Google et vous avez toutes les informations.
Bruno Dangin, Mathieu Dangin et Laure Gasparotto, merci beaucoup. Merci également à Céline Roudier-Léger, Christelle Taré, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, les pages Facebook et le compte Insta. Et on se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Françoise Barbin-Lécrevisse, auteur du livre Le Petit Traité du Cognac, ainsi que Mathieu Aymard et Vincent Deberger du château Monestier-Latour. Nous serons dans le sud-ouest. D'ici là, excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.